On est toujours très heureux de venir à Quévin. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu. Et voilà, on se réjouit de passer ces moments, de partager ce temps fraternel. Donc on vous apporte les salutations aussi, le grand bonjour fraternel de vos frères et sœurs, des frères et sœurs de l'église protestante baptiste de Vannes. Voilà, c'est une église qui progresse bien, qui est implantée, qu'on a implantée depuis 2016, donc fin 2016, donc c'est assez récent. Et c'est une église voilà, qui progresse bien par la grâce de Dieu. Et maintenant que je suis à la retraite, je peux enfin travailler voilà, pour le Seigneur avec plus de disponibilité, à la fois dans le temps puis aussi dans l'esprit, parce que c'est pas évident. Pendant un moment, j'ai fait les deux avec une activité professionnelle, et Jean-Marc sait ce que c'est. Et puis le service de Dieu dans l'église, c'est difficile. Alors ce matin, ça va être un petit peu particulier. Je vais apporter une prédication autour du thème, d'un thème particulier, je vous expliquerai pourquoi. Et puis je l'illustrerai à partir de ce qu'on fait sur Vannes. Alors sur Vannes, mais bon, au-delà, puisque vous soutenez aussi de manière importante aussi le travail qui est fait notamment parmi les migrants. Donc j'ai mis un... Mais ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour après. La lettre de nouvelles. Alors certains d'entre vous ont reçu, je fais une lettre de nouvelles en gros une fois par an, une ou deux fois. Les frères et sœurs qui adhèrent à l'association l'ont reçu, mais vous ne l'avez pas tous ou toutes reçu. Donc du coup, je vais la repasser aujourd'hui. C'est un PDF qu'on passera du coup après. Alors dans notre fédération baptiste, en fait, tous les ans, on a une thématique, en fait, un espèce de mot d'ordre. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et cette année, le mot d'ordre qui nous est donné, la thématique, c'est une église qui résonne dans la cité. Alors résonner, je regardais la guitare, résonner, c'est un petit peu ça. Hein, c'est, voilà, on fait un petit bruit, un petit frottement sur une corde, et puis le son, il se répand dans la salle, et tout le monde va entendre cette résonance de la corde. C'est un petit peu ça, résonner. C'est à partir de quelque chose, quelquefois de petit, c'est pas grand chose, c'est une corde, c'est un passement de doigts, et puis voilà, ça crée un son, on peut chanter, on peut louer le Seigneur, et en tout cas, tout le monde entend. C'est l'Église qui est appelée, un peu comme un instrument de musique, à résonner dans la cité, c'est-à-dire là où on vit, dans nos cités, dans nos quartiers, dans les villes, dans les villages où on habite, auprès de nos familles aussi. Et en plus de ce thème, on a certains dimanches avec des thématiques, donc il y a le dimanche des missions, enfin quelques thématiques. Et au mois de septembre, c'est pour ça que j'ai choisi de partager avec vous, au mois de septembre, alors c'est dimanche prochain normalement, ou le dimanche d'après, donc c'est le dernier dimanche du mois de septembre, c'est traditionnellement le dimanche des solidarités dans la Fédération Baptiste. On pourrait dire, n'importe qui pourrait faire un dimanche des solidarités, aussi bien la Croix-Rouge que... Secours populaire, enfin c'est pas forcé, on peut se dire, mais quel lien avec l'Église, quel lien avec un dimanche particulier, on va le voir. Et le thème du dimanche des solidarités de cette année, c'est quand le social impacte la cité. Et là on pourrait dire aussi, mais quel le lien, enfin en quoi le social, ça a un lien avec l'Évangile, avec l'Église, en quoi ça impacte la cité, en quoi le social, il fait que l'Église impacte la cité, le milieu où l'on vit. Souvent, ce qui résonne dans le cœur des gens, enfin dans ceux qui nous entourent, c'est pas forcément ce que l'on dit, c'est pas forcément ce qui parle, ce qui touche vraiment et ce qui interpelle les gens de la part des chrétiens. Ça peut être une parole, mais ce sont surtout les actes, ce sont surtout leurs œuvres. Et parfois, ce que l'on fait, la manière d'être aussi avec les autres, la manière d'être attentionné, d'écouter, d'aider, porte plus que nos paroles, que nos discours, que nos prises de position. Et on serait étonné, nous on s'attend, surtout dans nos milieux évangéliques, que ce soit notre témoignage, que ce soit une annonce plus explicite de l'Évangile en paroles qui touchent, et on serait étonné de savoir, si on faisait une petite enquête autour de nous, qu'est-ce qui touche vraiment les gens? Qu'est-ce qui va les toucher? Est-ce que c'est ce qu'on va dire, même si c'est important, hein, je ne vais pas diminuer l'importance d'annoncer l'Évangile, bien au contraire. Mais qu'est-ce qui touche le plus les gens? Est-ce que c'est la vie de l'Église? Ou est-ce que ce ne sont pas nos actes au quotidien d'abord? Est-ce qu'on est en phase entre ce que les gens attendent et ce que nous, on peut apporter aussi. Est-ce qu'on est en phase entre ce que l'on dit et ce que l'on fait ? Ça, c'est important. Jésus, il va commencer son ministère dans l'évangile de Matthieu, dans les Béatitudes, par cette merveilleuse parole. Après, justement, après les Béatitudes, il va dire, vous êtes, tout le monde connaît bien ce texte, hein, vous êtes c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière. On est amené à briller, à ne pas garder la lumière ou le sel dans un carcan, mais à briller. Et Jésus compare ce sel et la lumière à nos œuvres, aux œuvres bonnes que l'on fait, à ce que l'on fait, et qui amène, en fait, ceux qui nous entourent à louer Dieu. Et c'est étonnant, parce qu'en fait, les gens sont touchés par ce qu'on peut faire, ce qu'on peut être, et du coup, se tournent vers Dieu de cette manière-là. Alors, j'ai regardé dans la Bible, dans une concordance plus exactement, pour savoir si le mot « social » existait, et je ne l'ai pas trouvé. Donc, on peut dire, dans la Bible, « social », c'est quelque chose... On peut se dire c'est une conception relativement moderne, peut-être. On va voir que ce n'est pas vraiment le cas. On trouve encore moins le mot « action sociale » dans la Bible. Et pourtant, on connaît tous, Jean-Marc en a déjà cité un ce matin, c'est intéressant parce que je ferai le lien après, on connaît tous des textes bibliques, je ne vais pas tous les citer, mais vous connaissez Ésaïe 58, par exemple, qui est une forte interpellation prophétique sur la responsabilité du peuple de Dieu envers ceux qui sont dans le besoin. On connaît tous le discours de la fin des temps de Jésus dans Matthieu 25, hein, où Jésus va dire « Ce que tu n'as pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Ce que tu as fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu le fais. » Et on pourrait citer bien d'autres. L'apôtre Jean aussi, dans son épître, hein, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. L'apôtre Jacques aussi, qui reprend même assez sévèrement les chrétiens de l'époque en disant « Mais comment vous pouvez... accueillir quelqu'un dans l'église ou même autour de vous et lui dire simplement que le Seigneur te bénisse. Vous priez pour lui et ne pas lui donner le vêtement, ne pas lui donner la nourriture, ce qu'il a besoin. Comment vous pouvez aimer avec des paroles et pas par des actes, ces gens qui diraient ça. Jacques dira que la religion pure et sans tache, c'est celle qui visite les veuves et les orphelins. Et il nous rappelle à nos responsabilités sociales. Hein, le social, c'est ce qui fait le lien entre nous, entre les êtres humains. Et toute la Bible va exhorter le peuple de Dieu, que ce soit Israël ou l'Église, à vraiment s'engager dans des actes comme une conséquence de notre foi. On ne peut pas dissocier la foi et les œuvres, comme une mise en pratique de l'amour, une manifestation concrète, visible et palpable pour ceux qui nous entourent, de notre appartenance au Seigneur et de l'amour qui lui est porté. Et découle de cela, de cet amour qui nous a touchés, qui a bouleversé, qu'on l'a vu ce matin dans les chants, qui a transformé nos vies. On est transformé aussi pour aimer, pour apporter, pour donner, manifester des gestes d'amour pour le prochain, notre prochain, qui est créé à l'image de Dieu. Alors oui, ces œuvres, c'est-à-dire détacher dans Ésaïe 58 les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, partager son pain, c'est des choses très très concrètes, donner à boire à celui ou à celle qui a faim ou soif, accueillir les pauvres sans foyer, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, visiter ceux qui sont en prison, visiter les malades. Eh bien, ces gestes, ces œuvres auxquelles nous appelle la Bible, auxquelles nous appelle le Seigneur, ces œuvres, elles parlent par elles-mêmes, elles interpellent et elles résonnent autour de nous, auprès, dans notre cité, dans notre milieu de vie. Et elle manifeste l'amour du Père pour ses créatures à travers nous. C'est comme si l'amour de Dieu, en fait, résonnait dans la vie de ceux qui nous entourent. Cet amour manifesté concrètement par l'intermédiaire de ses enfants, des chrétiens, de chacun d'entre nous. Alors, je voudrais partager un texte avec vous dans le livre des Actes, un texte qu'on passe assez rapidement en général. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 36 à 43. Donc le livre des Actes, des apôtres, au chapitre 9. Donc, je vous invite à lire les versets 36 à 43. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Alors dans le texte qu'on a lu, il est question d'une femme qui s'appelle Tabitha, Dorcas, ça veut dire gazelle, dont on ne parle qu'une seule fois dans la Bible à cet endroit-là. On n'en parlera plus jamais, on n'en a pas parlé avant, on n'en parlera plus après. Ce n'est pas quelqu'un qui a une grande place dans l'histoire, on va dire, de la Bible, mais la Bible en parle. On sait peu de choses sur elle. La seule chose que l'on sait, c'est que c'est une disciple, d'une part, il y avait parmi les disciples, et qu'elle accomplissait diverses œuvres. Le verset 36 nous dit « Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. » Alors c'est dans la traduction que j'ai lu, des œuvres et des aumônes. C'est des mots qu'on emploie plus beaucoup aujourd'hui, qui nous paraissent un petit peu désuets, voire péjoratifs. Hein. Faire l'aumône, on a l'impression que c'est donné vraiment moins que le superflu. Hein. C'est donné parce qu'il faut donner, faire l'aumône. Des bonnes œuvres aussi, les bonnes œuvres, c'est quelquefois on dit les bonnes œuvres pour se donner bonne conscience. J'ai regardé dans d'autres traductions qui sont un petit peu plus parlantes, dans la traduction du Semeur, il est dit « Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres ». Ça nous parle déjà plus dans notre actualité. Et la transcription parole vivante complète, « Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle en aidant pratiquement et financièrement ceux qui étaient dans le besoin ». Ah, là c'est du concret, du pratique, c'est à notre portée. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle en aidant pratiquement et financièrement ceux qui étaient dans le besoin. Voilà ce qui reste de la vie de cette femme dans la Bible. Pour montrer, le Seigneur a voulu montrer à travers sa parole qui est inspirée par le Saint-Esprit l'importance des œuvres bonnes que chacun d'entre nous on peut faire et de la résonance à la fois autour d'elle, on le verra après, mais la résonance aussi pour l'éternité. Ça s'est passé il y a 2000 ans, et ce texte, il résonne encore pour nous aujourd'hui. Alors, resituons un petit peu le contexte de ce texte dans l'époque, dans le peuple juif. On a l'impression que, quand on parle d'aimer son prochain, de faire du bien, d'aider ceux qui sont dans le besoin, d'aider les pauvres, etc., c'est une notion qui était introduite par le Christ, par l'Église, par le Nouveau Testament, par cette nouvelle ère, et puis que c'est assez moderne finalement. Et Jean-Marc nous a rappelé un texte de l'Ancien Testament ce matin, et j'ai bien aimé, parce que c'est ce que je voulais d'abord présenter. En fait, c'est des Juifs, hein, Tabitha elle était juive, et l'aumône, c'est chez les Juifs quelque chose de très très important. Hein, c'est, j'ai regardé la signification en hébreu, c'est la tzedaka, et la tzedaka, ça va... C'est beaucoup plus que simplement donner comme ça un petit peu d'argent, de donner un petit peu quelques pièces. C'est un commandement, c'est une obligation qui est donnée à Dieu, qui est donnée par Dieu à tous les Juifs, indépendamment de leurs moyens, qu'ils aient beaucoup ou pas d'argent, et indépendamment de celui à qui l'on donne. C'est-à-dire qu'il y a un accueil inconditionnel. On ne va pas privilégier telle personne parce qu'elle n'est pas très bien, etc. Voilà. Et ce mot, tzedaka, ça veut dire plus qu'aumône, ça veut dire justice ou droiture. C'est-à-dire que quand on donne de ses biens, quand on partage son pain, quand on partage son argent, on accomplit en fait la justice de Dieu. Et c'est simple, c'est beaucoup plus profond que la simple entraide, que le simple fait de donner l'argent. Et ça fait écho avec la parole de Jésus dans les Béatitudes qui nous dit « Heureux les justes ». Heureux les miséricordieux, heureux les justes, c'est-à-dire heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande. Et aider ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans le besoin, eh bien, c'est vivre comme Dieu le demande, c'est vivre la justice de Dieu, justement. Dans l'évangile de Matthieu, au départ, dans le sermon sur la montagne, on a fait toute une étude, j'ai fait toute une étude pour l'Église, justement, sur les béatitudes, on a vraiment creusé tous ces aspects-là. Il y avait trois éléments que Jésus soulève et qui sont trois un peu fondements, trois pratiques fondamentales chez les Juifs, c'est l'aumône, la prière et le jeûne. Les trois vont en même temps. Pourquoi ? Parce que pourquoi on retrouve ça dans l'Ancien Testament ? Pourquoi c'est si loin ? Pourquoi c'est si vieux ? On le retrouve dans Deutéronome, un autre texte. Hein, s'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Voilà un appel très concret, un commandement, hein, c'est dans les commandements. Pourquoi on retrouve ça dans l'Ancien Testament ? Est-ce que c'est des commandements, une loi, un aspect légaliste ? Non. Parce que c'est dans le cœur même de Dieu, dans la nature même de Dieu, dans l'essence même de Dieu, d'aimer l'être humain. Dieu a tant aimé le monde, quelqu'un l'a dit ce matin. Dans l'amour, dans le cœur de Dieu, dans sa nature, dans son essence, il y a cet amour pour les hommes. Malgré le péché d'Adam et Ève, Dieu a tout de suite pourvu à leurs vêtements. On voit Caïn, même malgré son péché, le meurtre d'Abel, eh bien, on voit Dieu qui prend soin de lui. Et on le voit de manière différente. Et Dieu nous appelle à être ses relais sur la terre. Maintenant, c'est à nous de manifester cet amour concret, hein, de vivre en fait cette nature divine d'une certaine manière, de manière très concrète. Dans le mot aumône aussi, qui est un vieux mot, on retrouve la même racine que le mot miséricorde. Alors faire du bien en aidant pratiquement et financièrement, c'est donc une réalité qui est ancrée au cœur de la foi de cette femme, au cœur de la foi de Tabitha. Elle a une foi vraiment profonde, elle est habitée par la présence de Dieu, et c'est tout son être, sa foi qu'elle engage et qu'elle manifeste dans ce qu'elle fait pour les autres. Et sa vie est résumée en cela. Sa vie spirituelle, on peut dire sa vie de foi, on peut dire sa vie chrétienne, eh bien, elle est résumée dans ce qu'elle fait vis-à-vis de son prochain. Alors à cette époque, évidemment, ça a résonné d'une manière particulière, parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de protection sociale, il n'y avait pas d'établissement, de structure, de travailleurs sociaux. Et c'était vraiment essentiel ce que les gens faisaient. Et le témoignage de cette femme, eh bien, il passe par toute cette dimension de prendre soin de son prochain. C'est tout ce qu'on sait d'elle, tout ce qui reste de sa vie. Alors je ferai juste une petite aparté, parce qu'il y a une phrase en plus, il n'y a qu'un verset sur ce qu'elle fait. Le reste, c'est ce miracle qu'elle va vivre. Et une petite aparté, tout de suite après, on nous dit, et elle tombe malade, elle tomba malade. Et je me suis dit que c'était intéressant de dire un petit peu quelque chose, c'est de dire qu'en aucun cas, nos œuvres bonnes, nos œuvres pour les autres, nous apporte un mérite. C'est pas parce qu'on va faire du bien auprès des autres, auprès de notre prochain, qu'on va être plus méritant vis-à-vis de Dieu. Et qu'on va être mis à l'abri, en quelque sorte, des épreuves, peut-être, on peut le penser, de la maladie, de la mort. C'est pas non plus une condition à l'intervention de Dieu. Hein, Dieu fait grâce, il ne tient pas compte de nos œuvres, il nous fait grâce. Et je suis aussi aumônier à l'hôpital de Vannes, et souvent, et là actuellement j'accompagne une dame qui est en fin de vie, qui me dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait du bien toute ma vie, j'ai vraiment un cœur pour les autres, etc., et je suis tombée malade. Et ça m'a vraiment fait penser à ce texte de Tabitha qui est tombée malade. Et je lui ai expliqué que voilà, ce n'était pas du tout lié, on pouvait faire du bien, mais que ce n'est pas pour ça, qu'on ne pouvait pas tomber malade, qu'on ne pouvait pas... Voilà, c'est pas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de mérite, en fait. Hein. Tout est grâce, Dieu nous donne tout par grâce. Et là, pour Tabitha, mais il lui a donné aussi la vie, mais le miracle qu'elle a vécu n'est pas une réponse parce qu'elle faisait du bien. Alors Dieu lui a fait un miracle dans sa vie. Hein. C'était vraiment une grâce de Dieu. Son témoignage résonne dans sa cité, dans son environnement. Elle a un impact par ses œuvres. Et en ce dimanche, on pourrait dire des solidarités, en tout cas je veux partager avec vous, la question qui nous est posée est la suivante, est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on fait pour les autres, ce qu'on pourrait dire les actions sociales, nos œuvres bonnes réalisées par les chrétiens, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur la société, sur notre environnement? Est-ce qu'elles peuvent résonner? Est-ce que cette question a un sens? Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire qui illustrent cela? Est-ce que la parole de Dieu va aussi dans ce sens? Alors si on faisait vraiment une étude biblique, on l'a dit tout à l'heure, approfondie, si on n'aurait pas de difficulté à nous convaincre sur la nécessité d'actes bons envers le prochain. C'est bien cela, hein, quand on parle d'action sociale, d'œuvre sociale pour des chrétiens, c'est des actes bons qu'on fait envers le prochain. Si on faisait une étude biblique, on amènerait vite la conclusion de dire que c'est un fondement de la foi. Alors chez les protestants, on insiste beaucoup sur la grâce et pas les œuvres. On a pris un petit peu le contre-pied, hein, en disant que voilà, c'est la grâce qui nous sauve, et c'est vrai, on est sauvé par la grâce, ce ne sont pas du tout nos œuvres, fussent-elles très bonnes, qui nous sauvent, mais la grâce de Dieu. Et je dirais que d'une certaine manière, pratiquer les œuvres bonnes, c'est aussi vivre la grâce. C'est faire grâce aux autres. Comme Dieu nous a fait grâce, malgré notre péché, malgré notre vie ancienne, eh bien nous faisons grâce aux autres, malgré leur vie, etc. On leur fait grâce en leur manifestant notre amour. Et c'est une manifestation, ce qu'on peut faire aussi, de la grâce de Dieu envers notre prochain. Nous trouvons dans le texte que nous avons lu une belle acception du terme œuvre sociale, c'est un acte de compassion. Dans le texte qu'on a lu, en fait, Dorcas, elle faisait des actes de compassion. Et quand on parle de social, aujourd'hui c'est un mot qui est moderne, en fait, on parle d'actes de compassion, de miséricorde envers le prochain. Et est-ce que c'est pas dans ces actes de compassion, est-ce que ce n'est pas cela finalement, aimer Dieu, mettre en pratique le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu comme toi-même, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même, pardon, de tout ton cœur, etc. Et en fait, Jésus va remettre au même niveau ce commandement principal d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, etc., avec celui d'aimer notre prochain. Il va l'élever au rang d'égal, de premier commandement. Et la Bible va faire un va-et-vient permanent entre la foi et les œuvres. Les deux sont liés. C'est Jacques, l'apôtre Jacques, qui va beaucoup, je vous invite à relire l'épître de Jacques, qui va vraiment refaire le lien entre la foi et les œuvres. Paul va beaucoup insister sur la foi, Jacques va beaucoup insister sur les œuvres, et les deux forment un équilibre dans la parole de Dieu. Alors quelquefois, j'ai souvent même entendu dans mon parcours de vie chrétienne, un peu critiquer ceux qui étaient beaucoup engagés dans les œuvres sociales, et on en reparlait au dernier congrès avec un pasteur, là, Christophe Aline, qui est le président de la Bège, il me dit, moi, dans mon église, on me reproche de faire trop de social et pas assez de spirituel. Et j'ai souvent entendu, on oppose souvent les deux. Hein, peut-être vous le faites inconsciemment, ou peut-être vous le faites aussi, je ne sais pas. Vous avez cette réflexion-là. En tout cas, c'est vraiment une réflexion importante. J'ai souvent entendu, tu vas te noyer dans le social et tu vas oublier le spirituel, comme si vraiment on opposait les deux. Hein. Il ne faut surtout pas opposer œuvre sociale et témoignage, puisqu'on témoigne de l'amour du Christ, de la grâce de Dieu par nos œuvres bonnes. Et on peut rappeler le texte de Jacques, l'exhortation de Jacques, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jacques va donner des détails précis, hein, c'est-à-dire tu lui donnes à manger, tu lui donnes des vêtements, tu l'accueilles, tu le laisses pas sans rien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, c'est la loi royale. Oui, nous faisons bien quand nous faisons du bien au prochain. Nous faisons bien, c'est-à-dire que nous vivons la justice de Dieu, nous sommes agréables à Dieu quand nous faisons du bien à ceux qui nous entourent. Alors il faut encourager ceux qui s'engagent dans ce sens, ceux qui s'engagent à aider les autres, il faut s'engager, prier aussi pour qu'il y ait des vocations diaconales de service au nom de ce deuxième commandement. Mais au-delà de l'impact direct qu'ont nos actes de compassion sur le prochain, nos actions peuvent-elles toucher la société d'une manière plus générale? Est-ce que l'Église, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut avoir un impact dans la société, dans notre ville, dans notre département, dans la société. Est-ce que nos actes bons peuvent vraiment interpeller la société dans laquelle nous vivons? Je dirais, est-ce que nos œuvres bonnes, elles peuvent être comme des signes prophétiques dans la société dans laquelle nous vivons? Si la question se pose aujourd'hui, c'est sans doute parce que moins maintenant qu'à une certaine époque, les chrétiens impressionnent. Quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Église et l'histoire de l'action sociale, finalement, on s'aperçoit que pendant 18 à 19 siècles, c'est l'Église, ce sont les Églises qui se sont occupées des pauvres, qui se sont occupées des malades, et pas la société, pas les gouvernements, pas les rois à l'époque, etc. Et les églises, l'Église, du coup, impressionnait. Enfin, c'était vraiment le rôle de l'Église. Aujourd'hui, on a une action sociale, des œuvres qui sont organisées, financées par les pouvoirs publics, et l'Église n'impressionne plus. L'Église impacte peu dans ce domaine-là. Il y a plein d'associations, plein de structures qui font des œuvres bonnes sans dimension spirituelle. Et puis notre société aussi, elle est abreuvée de paroles, de crises politiques que nous traversons, notamment ces dernières années. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de crises. Et souvent, ces promesses, ces intentions ne suffisent plus. On le voit bien, les gens, ils demandent des actes. Les gens demandent des choses concrètes, des choses pratiques. Et l'évangile que nous proclamons en tant que chrétiens, elle est une parole, bien sûr, elle est une parole de salut, une parole de grâce, mais elle est aussi action. Ne restons pas simplement dans la parole, mais annonçons aussi l'évangile en action. L'Église a une parole à donner dans la société, une parole de libération, une parole de salut, une parole de bénédiction, mais elle a aussi des actes à mettre en œuvre. Et j'interpellerai plus précisément nos milieux évangéliques où on a certainement un effort à faire dans ce domaine-là. En tout cas, des progrès. Une parole qui s'incarne, une parole qui va rejoindre les préoccupations de ceux qui nous entourent, une parole qui se manifeste concrètement. Alors, jetons un très rapide coup d'œil dans l'histoire. Eh bien, dès les premiers siècles, dans nos pays en tout cas, puisqu'on n'est on n'est pas juif, enfin on n'est pas Israël, donc Israël avait connu ça depuis très très longtemps, hein, depuis les patriarches. En tout cas dans nos pays, c'est avec le christianisme qu'on s'est préoccupé enfin de la situation des pauvres, de la situation des prisonniers, de la situation des malades. Et en fait, vous savez, par exemple à Rennes, il y a l'Hôtel Dieu dans certains États. On a gardé un petit peu cette appellation d'Hôtel Dieu. Et en fait, dans les premiers temps de l'Église, eh bien, c'était l'évêque à l'époque, dans les premiers siècles, qui avait la responsabilité des pauvres et des malades de son secteur, de son secteur géographique, de son diocèse. Il y avait un endroit qui s'appelait l'aumônerie. Alors aujourd'hui, on parle d'aumônerie à l'hôpital ou à la prison, mais c'était un lieu où en fait les chrétiens à l'Église recevaient les pauvres, recevaient les malades, qu'on appelait l'autel. C'était un autel, et l'autel Dieu, parce que les chrétiens le faisaient au nom de Dieu, et ces pauvres, ces malades étaient accueillis dans la maison de Dieu. Alors c'est vraiment beau, hein, c'est aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment très loin, mais c'est vraiment beau. Ça serait merveilleux si on pouvait revivre ça aujourd'hui. Et puis il y a eu des grandes figures dans l'histoire de l'Église. On peut parler de John Bost, par exemple, qui a mis en place les premiers établissements pour accueillir des malades mentaux, hein, qui étaient enfermés, qui étaient maltraités, etc. John Bost, qui était un protestant. Henri Dunant, la Croix-Rouge, aujourd'hui, il n'y a même plus d'aspect spirituel, mais c'est un protestant, Henri Dunant, qui a créé la Croix-Rouge pour venir en aide à ceux qui étaient en difficulté. Je ne sais pas si vous connaissez les centres sociaux, hein, à Lorient, à Vannes, il y a des centres sociaux en ville. Eh bien, c'est un protestant qui a créé les centres sociaux. Ça, je l'ai découvert, je ne savais pas. C'est Samuel Barnett qui était l'inventeur des centres sociaux, qui sont des lieux un petit peu de vie, d'aide auprès d'une population. Et c'est là, pour le coup, l'Église qui résonnait directement dans son quartier. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de dimension spirituelle. La Croix-Bleue, ça va faire plaisir à Jean-Marc. La Croix-Bleue qui est un mouvement qui existe toujours, hein, qui est un mouvement d'aide aux personnes qui rencontrent des difficultés d'addiction, qui a été créé par un protestant, le Louis Rocha. Tout le monde connaît aussi l'Armée du Salut, hein, qui a été créée par la famille Bousse. L'Armée du Salut, moi j'ai souvent entendu dire « Oui, mais l'Armée du Salut, il n'y a plus rien de chrétien, il n'y a plus rien de spirituel. » Eh bien, détrompez-vous. Il y a peut-être eu un moment où, maintenant c'est une structure qui est financée par l'État, etc. Mais il y a une redécouverte, un retour vers le spirituel dans l'Armée du Salut. Comme quoi, rien n'est perdu. Voilà, aimer le prochain, pratiquer des actes de compassion ne peut laisser indifférent. Sans qu'il soit nécessairement explicite, le témoignage peut passer par l'action concrète. Et tout au long de l'histoire, on a des hommes, des femmes qui ont impacté leur société. Depuis 2000 ans, en fait, on a des choses qui résonnent encore aujourd'hui dans notre quotidien, hein, dans la ville. Et on voit que le témoignage diaconal, le service auprès des autres, des chrétiens, peut en ce sens influencer la société. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un rejet autour de nous des religions. Il y a globalement beaucoup d'incrédulité, beaucoup de rejet des religions aussi, avec notamment des religions qui seraient plus radicales, voire des attentats, etc. Tout le monde nie en bloc et rejette. Et du coup, la société, elle a soif d'authenticité, de vérité, et elle se met quelquefois à douter de ce qui n'est que parole. Jacques nous dira, je l'ai dit tout à l'heure, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il s'agit bien là d'actes concrets plutôt que de paroles. Alors, évangéliser, on nous demande aussi, mais quand vous occupez des autres, etc., est-ce que vous évangélisez, est-ce que vous témoignez? Oui, ça peut arriver, mais évangéliser, si vous regardez ce que ça veut dire annoncer une bonne nouvelle. Et aimer les autres, s'occuper d'eux, prendre soin d'eux, les nourrir, les vêtir, leur donner un logement, est-ce que c'est pas ça aussi, leur apporter une bonne nouvelle? Leur apporter la bonne nouvelle qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des chrétiens qui les aiment, qui prennent soin d'eux, au nom de l'amour de Dieu. Et les gens nous disent, mais pourquoi vous faites ça pour nous? Notamment les musulmans qui sont très touchés de voir des chrétiens qui s'occupent d'eux, et du coup ça nous permet, ça ouvre une porte pour le témoignage. Évangéliser, ça veut dire manifester aussi l'amour de Dieu pour chaque homme, rappeler que chaque femme, chaque homme a une valeur, une dignité devant Dieu, et le redonner cette dignité à chacun, c'est témoigner d'une transformation possible à l'intérieur de l'être humain. Évangéliser, c'est rendre attentif l'autre sur la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que j'aime tant le monde que je suis capable de donner, moi, à mon tour, certainement pas autant que Dieu, mais de donner ce que je peux donner à mon petit niveau? C'est recevoir sans faire de tri entre ceux qui méritent ou ceux qui ne méritent pas d'être aidés. C'est accueillir de manière inconditionnelle, faire voir quelque chose de l'amour de Dieu dans des gestes d'attention, de partage, de dons, qui donneront tout le crédit à nos paroles. Hein, c'est comme si on préparait un peu un boulevard, je dirais, après à nos paroles. Alors, comme cette femme dans les actes, elle était témoin par ses œuvres, son amour en action, elle avait un impact autour d'elle, elle résonnait. Son témoignage, finalement, il a été décuplé par le miracle qu'elle a vécu, la parole qu'elle a pu donner. Elle était d'abord connue par ce qu'elle faisait pour les autres, et son témoignage de l'intervention de Dieu, eh bien, il s'est appuyé aussi sur le crédit de ce qu'elle faisait. L'Évangile, il doit être vu et compris par le monde qui nous entoure comme cette dimension de foi, comme cette spiritualité qui pousse les personnes à faire du bien, à accomplir des actes de compassion, à ouvrir les bras, nos bras et nos cœurs. Alors oui, dans ces temps, on vit aujourd'hui dans un monde de défiance, de rejet de tout. Nos actes de compassion et nos œuvres sociales peuvent faire la différence. Elles peuvent toucher la société et redonner une belle image du christianisme, de l'Église, de l'Évangile et faire connaître Dieu. Et la lignée, eh bien, il y a une lignée de grands témoins qu'on a reparlé très rapidement des premiers chrétiens, de ces hommes, de ces femmes tout au long des siècles, qui ont été cette lignée de témoins de l'amour du prochain. eh bien cette lignée, elle passe peut-être, même certainement, par notre Église. Elle passe peut-être par toi, par nous, par moi. Chacun, en tout cas, à notre niveau, on est une pierre dans cette lignée. On peut être une pierre dans cette lignée et poursuivre cet impact dans la société. Alors encourageons-nous à, vraiment au nom du Christ, au nom de l'amour de Dieu, pour aller au-devant d'une société qui est souffrante, qui est déboussolée, pour lui manifester sa compassion et tendre la main. Aujourd'hui, il y a encore, je dirais, et d'autant plus de la place pour les chrétiens et les églises qui veulent s'investir dans leur cité, dans leur commune, dans leur département, par des actes de compassion, pour être sel et lumière. Et qu'on puisse peut-être dire, comme on l'a dit de Paul et Silas, en parlant des chrétiens, des premiers chrétiens, voici ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici aussi. Alors on peut être de ceux qui bouleversent des vies parce qu'on les a touchés par notre amour, en tout cas qu'on le soit vraiment, ceux qui contribuent à bouleverser ce qui nous entoure. Amen. Alors je voudrais illustrer, j'espère que je ne fais pas trop long, ça va ? Bon, il faut me dire, hein, parce que... je voudrais illustrer rapidement. Ça va être un petit peu dur de faire rapide, mais combien de temps tu me donnes ? Il faut me le dire. 10 minutes. Allez. Donc, je vais reprendre rapidement la lettre de passerelle. Si vous pouvez passer Voilà. Donc c'est une lettre, je ne vais pas la lire, hein, je vais vraiment la commenter. Voilà. Donc. Alors, on va commencer par quelques chiffres plus bas. Descendez. Est-ce que tout le monde voit bien ? Voilà, là c'est bon. Tout le monde voit bien ? Voilà. Dans notre projet d'église à Vannes, notre projet d'église, il y a 3 points. C'est une église qui est ouverte sur la cité. On peut dire qu'il va résonner, en tout cas sur la cité. C'est un des points. Le deuxième, c'est une église qui accueille en son sein, comme toutes les églises. Et puis le troisième point, c'est une église qui est en relation avec les autres églises. Et dans le cadre de ce premier point, ce premier axe, notre projet d'église, en fait, on a créé une association qui s'appelle Passerelle. Alors Passerelle, on ne l'a pas choisi par hasard, hein, c'est pour faire une passerelle, c'est un pont. Et l'idée, c'était de faire des ponts entre l'Église et la société, la cité qui nous entoure, entre les Français, les étrangers, entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et il s'est trouvé qu'on a été conduit vraiment à s'occuper davantage de personnes étrangères, de migrants sur Vannes, ce que l'on fait depuis maintenant 3 ans, à peu près 3-4 ans. Quoi. Donc Martine pourra commenter, parce que c'est plus elle qui est sur le terrain, moi. Alors je vais vous donner juste quelques chiffres. Vous avez peut-être vu dans les journaux récemment, il y a eu une interview de la nouvelle préfète de région qui disait que la demande d'asile en Bretagne avait augmenté de 23%, ce qui est à peu près le taux d'augmentation de la France, donc de manière très forte. Alors c'est plus fort sur Vannes, hein, et on va dire les 2/3 des demandeurs d'asile maintenant arrivent plutôt sur Rennes, je dis Vannes, mais c'est Rennes, et moins dans les autres départements. Donc, 3 chiffres à retenir. Une demande d'asile qui augmente. Deuxième chiffre qui est à retenir, c'est le taux de réponse favorable à la demande d'asile, en fait, qui n'est que de 1 personne sur 3. Sur 3 personnes qui demandent l'asile, il n'y en a qu'une qui obtient le statut. Et ce taux, il tombe à 3% quand on vient d'un pays qu'on appelle sûr. C'est-à-dire que le gouvernement estime qu'il y a des pays où il n'y a pas de problème de guerre, de persécution, comme l'Albanie, la Géorgie, l'Arménie, enfin les pays de l'Est, en gros, même certains pays d'Afrique. Et du coup, ce taux, il tombe à 3%. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui arrivent, en fait, d'Albanie, de Géorgie, en tout cas à Vannes. Pas parce que forcément il n'y a pas de guerre dans ces pays-là, pas forcément parce qu'il y a des persécutions, il y a des problèmes liés à la mafia, des gros problèmes de santé, il y a beaucoup avec des problèmes de santé. Et en fait, ils n'arrivent pas à avoir de titre de séjour. Et troisième chiffre qui est à retenir, c'est celui qui est en bas, c'est qu'en fait, les personnes qui arrivent, il n'y a que 50, normalement, il y a une obligation de l'État de les héberger. Donc quand je dis des personnes qui arrivent, c'est des familles. Hein. Et des couples avec des jeunes enfants, des bébés, quelquefois des personnes qui accouchent en France, etc. Et donc, il n'y a que 50% des personnes qui sont hébergées, alors que normalement, c'est une obligation. Donc tout ça, ça fait qu'il y a 50% des personnes qui se retrouvent dehors quand ils arrivent en France pour demander l'asile, et il y a au moins deux personnes sur trois qui se retrouvent aussi sans rien après avoir demandé l'asile, et quelquefois c'est beaucoup plus, hein, c'est 97 personnes sur 100 quand les personnes viennent d'Albanie, Géorgie. Donc on est confronté à cette problématique-là de personnes en fait qui n'ont plus rien quand ils arrivent, et de personnes qui n'ont plus rien non plus très vite quand ils ont fait leur demande d'asile. Il n'y a pas de reconduite obligatoire à la frontière, ni dans les pays, hein, ça reste sur la base du volontariat. On n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un de force dans son pays. Et en fait, les gens ne veulent plus retourner dans leur pays, notamment ceux qui sont là depuis plusieurs années. On a des familles qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est vraiment, vraiment un problème. Donc, si tu peux remonter un petit peu, voilà. Encore. Du coup, sur l'année, on a à peu près, en 2018, on a aidé 45 familles, ce qui représente 164 personnes. Et vous voyez, il y a beaucoup d'enfants, il y a 94 enfants. Alors, des enfants de tous les âges, hein, ça va de la naissance, et puis les bébés, on a vu ici dans la salle, à des ados, à des jeunes qui ont 18-20 ans, qui vont au lycée, qui vont à l'école. Voilà, donc les enfants s'intègrent assez vite parce qu'ils vont à l'école. Il y a des enfants qui naissent en France, et après c'est très vite les enfants qui ne veulent plus retourner dans leur pays, parce que c'est même plus leur pays, hein, même l'Albanie, même, etc. On a une famille congolaise à l'église qui n'a pas réussi à avoir de titre de séjour, et qui, les enfants, la plupart des enfants sont nés en France, ils ne veulent plus retourner au Congo, c'est plus leur pays. Voilà, donc vous voyez, les chiffres ont augmenté. En 2016 c'était 32 familles, en 2017 c'était 43. Et en 2019, on se demande même si on va pouvoir aider autant de familles, parce qu'en fait, les besoins sont énormes. Là, par exemple, on a été sollicité hier par une famille de Géorgiens, un couple avec trois enfants, ils sont sortis de cabane, ils font partie de ces 97% qui n'ont pas pu quelques jours, ils sont dehors. Ils sont dehors depuis un petit moment. Donc avec les associations, on les aide en hébergement d'urgence, mais il n'y a pas de solution à long terme. Alors, les demandes, elles viennent beaucoup du c'est un terme technique, du SEO, c'est le centre qui est à l'ONU aussi, qui reçoit toutes les demandes d'hébergement d'urgence. Peut-être à la rue, on va voir le SEO quand on arrive. Ça, je dirais que c'est une illustration un petit peu de ce qu'on a vu dans la traduction, l'église qui résonne. En fait, on s'est aperçu qu'on était connus, l'église et puis l'association passerelle, et maintenant ce sont les organismes eux-mêmes qui nous font appel. Donc c'est intéressant, c'est une manière de raisonner dans la cité. Vous pouvez passer. De plus en plus de difficultés à trouver des solutions pérennes dans les familles, dans l'avenir pour les familles. Hein, on arrivait à trouver 20% à peu près de logements, de situations de logement, et puis de s'étendre à une famille qui est seulement installée. On a de plus en plus de mal à trouver des solutions pérennes. Aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias, la télé, la presse, etc., on a une politique d'accueil de l'étranger qui durcit en France. Alors, il y a tout un contexte politique, il y a les élections, c'est vraiment très très compliqué. Et de plus en plus, en fait, les gens ne les gardent plus. Alors qu'avant, on arrivait à obtenir un titre, les gens qui travaillaient, on arrivait à leur trouver un travail, un logement, puis au fur et à mesure, les solutions arrivaient à se résoudre comme ça. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de travailler, du coup, ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas de prestations familiales pour les enfants, il n'y a rien du tout, il y a juste la santé qui sont pris en charge, et encore actuellement il y a un projet de remise en cause de l'aide médicale d'État. Voilà, on peut passer. Donc le gros besoin, c'est l'hébergement d'urgence. En fait, 86% des dépenses de l'association, c'est vraiment pour le quotidien, pour se nourrir, pour se déplacer et pour s'héberger. Vraiment dans Ésaïe 58, la mise en pratique d'Ésaïe 58. Donc cette année, c'était un peu l'explosion. Hein, on a dépensé, alors, j'ai mis le chiffre, 5 000 euros, ça peut vous paraître beaucoup ou pas beaucoup. On aurait pu dépenser 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros si on avait sollicité tous les jours pour de l'hébergement. Et on ne peut pas répondre. Et on ne veut pas forcément non plus répondre à toutes les demandes quand il n'y a pas de solution derrière. Hein, quand, par exemple, les familles, je ne sais pas comment on va faire. On sait très bien, on héberge en fait les familles pour lesquelles il y a une solution derrière, soit soit d'hébergement dans un centre, soit de titre de séjour, de régularisation. Donc on a pris des critères comme ça. Donc on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle l'espace Montcalm, c'est la maison du diocèse en fait, qui est un centre, un lieu d'hébergement pour tout le monde, on peut aller en vacances là-bas. Donc c'est une chambre par exemple. Avec Emmaüs, je vous expliquerai après. On a fait un essai avec des familles d'accueil, mais ça ne s'est pas trop bien passé parce que les gens ne comprenaient pas bien, enfin, c'était un peu compliqué, donc on a un peu arrêté. Et puis on travaille sur un projet dont je vous parlerai après. On a ouvert aussi un accueil de jour. Donc l'hébergement cette année, en 2018, ça a représenté plus de la moitié de nos dépenses. Hein, je vous dis, on aurait pu dépenser 2, 3, 10 fois plus. Et on travaille aussi, on héberge en complément, par exemple, le Saint-Vincent-de-Paul accorde 3 nuitées, nous on accorde 3 nuitées, le Secours catholique fait 3 nuitées. Donc c'est aussi une manière de raisonner dans la cité auprès des autres associations. L'accueil de jour, on a ouvert aussi avec Saint-Vincent-de-Paul et Emmaüs un accueil de jour le week-end du 1er novembre au 31 mars, puisqu'il n'y a rien. En fait, les familles qui sont hébergées de nuit dans les mobilhomes à Vannes se retrouvent dehors pendant le week-end. Pendant la semaine, il y a les Restos du Cœur. Et donc, on a ouvert un accueil de jour. On a accueilli 743 personnes. Alors, il y a un tiers en gros de migrants et le reste des personnes sont des personnes sans domicile. Sans domicile fixe, hein, des SDF qui viennent. Voilà, on offre un repas, un accueil, on passe un temps avec eux. L'épicerie, alors l'aide alimentaire, ça représente, c'est à peu près stable, hein, 18% des dépenses, donc c'est 1700 euros à l'année. C'est pareil, on est obligé d'unités. Donc on a une convention avec l'épicerie solidaire, qui est aussi une manière de raisonner dans la cité, parce qu'on a en fait, on a été reconnu par. Elle s'appelle l'ANICEP et qui gère l'épicerie solidaire avec une convention et on peut aider 12 familles en permanence tous les jours. On est limité pareil, on peut en aider 20, 30. Voilà, on a un accord pour 12 familles et depuis 3 ans, c'est 53 familles au total qu'on a aidées. Donc on accorde des bons, quand on accorde un bon de 10 euros par mois, les gens peuvent acheter pour 100 euros de course. Et c'est des produits de qualité, donc ça leur permet d'avoir une nourriture équilibrée, de qualité. Donc pour la santé, c'est mieux, ils peuvent participer à des cours de cuisine. L'aide au transport, donc c'est pareil, hein, on est obligé de limiter un petit peu. En fait, on s'est donné des critères, on aide en priorité les familles avec des enfants, les femmes seules, avec ou sans enfants, et les personnes seules, donc des hommes qui sont malades, hein, qui ont un gros problème de santé. Bon, déjà avec ça, on n'arrive pas à répondre à toute la demande, mais on s'est fixé ça comme... Alors, on paye aussi des cartes de bus à tarif réduit à 5 euros. Et là, depuis un petit moment, on a un gros problème. C'est-à-dire que la communauté de communes de Val-Allier n'accorde plus de tarif de réduction aux demandeurs d'asile qui n'ont plus de récipité. Récipité, c'est un papier comme quoi on a une demande d'asile. La préfecture ne les donne plus. Donc, on va dire, ça dure tout partout. Enfin, il y a des contrats administratifs. Donc, les gens n'ont plus de récipité. Ils n'ont plus de carte de bus à 5 euros. Donc, ils sont obligés de prendre une carte de bus à 37 euros alors qu'ils n'ont pas les moyens du tout. Et les associations ne peuvent plus les aider parce que 37 euros, ce n'est pas aider des familles comme ça tous les jours, c'est pas possible. Donc là, on a réduit nos aides pour les familles qu'on ne peut plus aider, malheureusement. C'est pareil, on essaie d'aider vraiment ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de se déplacer à pied. Donc ça devient compliqué. De temps en temps, on accompagne aussi des personnes à l'OFIRM, l'Office français de l'immigration pour leurs papiers. Et très très exceptionnellement à l'OFPRA à Paris, mais qui reste très exceptionnel parce que c'est un budget français. Voilà, puis il y a quelques autres aides, hein, l'accompagnement pour les démarches, du petit matériel de cuisine, des produits d'hygiène, du lait pour les nourrissons, du matériel de culture, du matériel scolaire, un petit peu en fonction un petit peu des demandes. Mais le gros, c'est l'hébergement d'urgence, l'alimentaire et les transports. C'est vraiment les gros des demandes là. Et ce sont pour des personnes qui n'ont pas de ressources du tout. Donc on ne travaille pas tout seul. Donc là c'est pareil, hein, c'est l'impact sur la société. En trois ans, l'association Passerelle et l'Église, en fait, elle est reconnue sur Vannes. On n'a pas du tout les mêmes moyens que le Secours catholique, que Saint-Vincent-de-Paul, mais finalement les gens nous font appel comme si on avait les mêmes moyens. Donc c'est aussi un peu cette résonance, cet impact aussi qu'on a sur Vannes, c'est intéressant. Donc on a un groupe de bénévoles avec l'entraide protestante de Vannes, on est une dizaine, on se réunit régulièrement. Et puis on collabore avec Emmaüs, la CIMAD, des réseaux d'accueil, Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge, etc. Enfin, toutes les associations qui font le même travail que nous. Les CCAS aussi, enfin voilà, différents organismes. Donc on est pas seul. Et je le rappelle, c'est avec les églises aussi. Donc les églises protestantes, les églises évangéliques, la CAP aussi. Et voilà, je voulais vous remercier particulièrement parce que vous êtes une des églises qui aide les familles de manière régulière, enfin vraiment une sensibilité, ces œuvres bonnes qui sont là. Et ce que vous faites, en tout cas, ça résonne loin. Et je vous en remercie vraiment très fraternellement. Vous pouvez passer. On organise aussi un goûter de Noël tous les ans pour les enfants, par une petite fête avec promis des cadeaux, un goûter, un petit spectacle. Donc l'année dernière, on avait à peu près 80 personnes, dont 40 enfants et puis les parents avec. Alors on a deux nouveaux projets. On va passer très rapidement. On vient d'adhérer aux associations familiales protestantes. C'est aussi une manière pour nous de raisonner un peu plus dans la société. On va pouvoir adhérer à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, et d'être encore plus là, de pouvoir plus être présent et reconnu au niveau local. Et je voulais vous parler d'un projet. Voilà, si on peut bien montrer la photo du bâtiment. On va continuer à payer l'hébergement d'urgence, mais on avait à cœur depuis un moment de travailler sur un projet d'hébergement en ville. Alors nous, on n'a pas la possibilité d'aller tout seul, donc on a fait un collectif avec Saint-Vincent-de-Paul, la Diaconie 56, Emmaüs et Passagne. Et le diocèse met à notre disposition gratuitement cette grande maison en plein centre-ville de Malte, c'est une ancienne communauté religieuse, donc avec trois grandes pièces au rez-de-chaussée et quatre grandes pièces à l'étage. Et donc on a les travaux à faire à l'intérieur, et puis après il faudra assurer le... Donc ça permet d'accueillir au moins deux familles avec des enfants, ou plusieurs femmes seules, ou plusieurs femmes seules avec des enfants. Donc c'est vraiment le gros projet, et on va centrer un petit peu nos interventions les années qui viennent sur ce projet. Donc le projet, c'est voilà, de faire les travaux, il faut qu'on remplace les ouvertures, qu'on isole, à l'intérieur c'est déterminant, voilà. Et après, chaque association se répartira le fonctionnement, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité. Et c'est vraiment un beau projet, on a prié pendant longtemps pour ça, et vraiment le Seigneur a ouvert les portes. Et c'est une bénédiction parce que c'est près de la gare de Val, et les promoteurs immobiliers sont... comme des requins prêts à racheter à un gros prix, et le diocèse tient bon et veut le mettre à notre disposition. Donc c'est bien. Et puis je voulais aussi vous donner des nouvelles, donc je vous donnerai des nouvelles plus précises de ce projet. On avait lancé un appel l'année dernière pour une famille de notre église, donc une famille de Congolais, qui malheureusement n'a jamais pu obtenir un titre provisoire. Alors que tous les autres Congolais, les autres chrétiens qu'on a aidés, et bien la France ont tous obtenu un titre provisoire. Parce qu'ils sont passés par le Maroc, enfin, c'est un peu compliqué leur histoire. Et vraiment, on a prié pour eux, ils n'ont pas de réponse. Quoi. Et donc, ils ont été hébergés dans un CADA pendant un an, par un centre d'accueil pour le moment dans la ville. Et les coups de paix qu'on a eu dans l'octobre de l'année dernière, pas de titre de séjour, mais donc expulsion du CADA au Maroc, avec dans une liste en couple avec trois enfants. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser les frères et sœurs s'adapter. Et ça, on peut encore moins les laisser dehors, c'est pas possible. On en a fait vraiment un sujet de prière, on a lancé un appel à la solidarité pour toutes les églises, enfin de tout ce qu'on peut laisser. On avait besoin de la somme de 5000 euros en fait, pour payer un gîte pendant 6 mois. En 15 jours, la somme elle a été récoltée. Et en fait, ils ont pu avoir un gîte. Donc on voit Fabrice et Gilline avec leurs enfants, Stéphanie, Anthony et Merci. Et en plus du gîte, on se dit, mais qu'est-ce qui va venir après? Quand on a eu un contact avec Emmaüs, Emmaüs ne prenait jamais de famille. C'est la seule exception qu'ils ont faite, ils ont pris cette famille-là. Donc au-delà des 6 mois dans le gîte, en fait, ils ont été, Fabrice ont été pris comme compagnon à Emmaüs. Donc maintenant, ils sont à Emmaüs, donc ils ont un hébergement à Emmaüs, ils travaillent à Emmaüs. Et quand on est à Emmaüs, au bout de 3 ans, on peut être régulière et avoir un titre de séjour définitif. Et donc là, vraiment, c'est vraiment un miracle, hein, Dieu a répondu à
à la dernière minute, mais presque. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas eu cette solution-là, c'est une famille qui s'est dehors avec très très grande précarité. Voilà, donc une réponse vraiment aux sauts de prière et à la solidarité, parce que vous y aviez contribué. Voilà, je voulais terminer par là, et puis en vous remerciant donc, pour votre soutien et vos prières. Il n'y a pas que le soutien financier, il y a la prière qui est aussi très importante. J'étais un petit peu long.
Amen. Eh bien, on va remercier Dominique, pas simplement pour son intervention ce matin, mais aussi pour le service dans lequel lui et sa femme sont acteurs actifs. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont dans la consécration. Je pense à un frère que j'aime beaucoup, qui est pasteur à Brest, qui s'appelle Michel Pelletier, qui lui s'est consacré plus sur l'accueil des personnes âgées, des personnes démunies, et qui un jour, dans une pastorale de la Fédération protestante de France, après le tsunami en Inde, a dit